Bonjour à toutes. Nous nous retrouvons dans Économie en folie avec Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Ce mois-ci, nous allons parler d'économie toujours, certes, mais d'économie un petit peu plus empagaille et sombre. La Chine.
Et oui, la
c'est
Chine.
C'est un pays dont on n'a pas parlé depuis longtemps.
Et dont on parle partout.
Et dont on parle partout, mais est-ce que tout le monde en parle à bon escient? On ne sait pas. En tout cas, moi je voudrais savoir où c'est qu'on en est, parce que c'est un pays bien peuplé, mais c'est un pays aussi qui est un petit peu fermé, me semble-t-il.
Et oui, c'est cette réalité. C'est le pays qui est le plus peuplé au monde. 1,4 milliard d'habitants. Le deuxième pays, c'est d'ailleurs l'Inde. Donc vous voyez, c'est qu'il y a 1,3 million, mais qui a des caractéristiques très différentes. C'est donc le pays aussi le plus grand du monde, en quelque sorte, le plus peuplé. Par rapport à une population mondiale de 7,5 milliards, vous voyez que c'est une part absolument non négligeable. Si on regarde cette population, il faut savoir aussi que le taux de fécondité en Chine est faible. Il y a eu toute une politique de un enfant par couple qui a entraîné en fait un vieillissement de population et une absence de renouvellement complet. C'est un pays qui risque de voir même sa population progresser très très peu.
Alors, est-ce qu'il est vrai justement à ce propos, parce que ça fait partie aussi de l'économie, puisque
bien sûr,
les enfants c'est l'économie d'un pays aussi, est-ce qu'il est vrai qu'il ne fallait que des garçons?
Lorsqu'on disait qu'il ne faut qu'un enfant par famille, il y avait donc une politique interne qui est liée à domination mâle, à l'image, c'est-à-dire ce qui est important, mais ce n'est pas propre à la Chine. Ce qui est important, c'est d'avoir un garçon. Et on le sait bien, même actuellement, en Europe, il y a toujours cette tendance d'origine rurale, et de notre passé à la campagne. Il est important d'avoir des garçons et un garçon pour prendre la succession, la terre qui vient derrière. Et les filles étaient considérées comme secondaires. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec ce qui s'est passé après la Révolution française, mais ça c'est un autre problème. Mmh. Pour les Chinois, ça s'est traduit d'avoir un seul enfant, beaucoup de familles privilégiées par tous les moyens, et on ne rentre pas dans le détail,
oui,
pour avoir des garçons. Aujourd'hui, depuis 3-4 ans, c'est fini. C'est-à-dire, ils peuvent avoir deux enfants, et ils sont encouragés à avoir deux enfants. Le seul problème, c'est que toutes ces générations où il n'y avait qu'un enfant par famille, essentiellement et majoritairement des garçons, ça fait que le renouvellement de la population est extrêmement freiné.
Oui.
En quelque sorte, il y a pénurie de reproduction.
D'accord.
Voilà. Et ça, c'est un des problèmes qui a une influence sur l'économie, surtout dans le futur, parce
alors,
que c'est le début du problème.
Comment se fait-il que, d'un côté, on dise, bon, d'accord, il faut pas trop d'enfants, le moins possible, un, c'est très bien. Et comment ça se fait que ce soit le pays le plus peuplé?
Eh bien, c'était le pays le plus peuplé.
D'accord.
Et donc, le gouvernement de l'époque de Mao Zedong, il ne faut pas l'oublier, hein,
oui,
qui était un dictateur, qui était le résultat des révolutions, de l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale en Orient. Mao Zedong, c'est lui qui avait déclaré, parce que la population explosait. Les Chinois, c'était des ruraux, que des ruraux, dans un pays extrêmement pauvre. Donc, la décision de réduire absolument la natalité, c'était de dire, eh bien, pour l'instant, construisons, faisons pour ceux qui vivent. Il ne faut pas accroître la population. Et cette tradition, cette loi, parce que c'était inscrit d'ailleurs même dans la Constitution, a été modifiée il y a seulement quelques années.
Mm-hmm.
Mais elle a abouti, il
oui,
faut être clair. Elle a abouti. Et quand Mao Zedong a disparu, est mort, c'est-à-dire à partir de 1976, ça commence à dater, à ce moment-là est apparu un autre dirigeant dont l'Occident appréciait beaucoup de choses, c'est Deng Xiaoping, qui a pris le pouvoir après 1976 et qui est resté au pouvoir jusqu'à 1997. C'est lui qui a provoqué, volontairement, accompagné avec tout l'appareil d'État,
oui, oui,
et du Parti communiste chinois, hein, c'est l'appareil central qui contrôle le pays, l'ouverture du pays aux technologies, à l'étranger, et surtout pour faire travailler, pour progresser, pour se mettre dans une espèce de développement économique comme ont connu d'autres pays.
Mmh.
Et cela a réussi. Il faut être clair là-dessus.
Oui.
Ça a réussi pourquoi? Parce que d'abord, il y a eu un soutien absolument fort des pays occidentaux, États-Unis compris, Europe comprise, pour que cette Chine se développe en sachant que c'était un moyen d'isoler l'URSS. L'ennemi, c'était la Russie.
Oui.
Il faut bien le voir que avoir et favoriser la Chine, c'était en faire un allié. Il fallait qu'il se développe. Mm-hmm. Pour cela, on a ouvert les frontières, on a envoyé nos entreprises s'installer là-bas et surtout, surtout, on a ouvert nos marchés et la Chine est devenue le chantier du monde libre en l'occurrence. Ils avaient beaucoup d'habitants, extrêmement pauvres, donc les salaires étaient absolument ridicules. Est-ce que vous savez que le travailleur chinois, il y a 15 ans, il travaillait pour 5 euros la journée, l'équivalent.
Oui.
C'est absolument incroyable.
Tout à fait.
Donc ils ont envahi le monde, ils ont pris leur part, ils se sont développés. Ils se sont développés très rapidement. La croissance chinoise est absolument folle quand on regarde. C'est des taux qui sont énormes de rapidité. Donc il s'est développé une société qui a commencé à être divisée. Ceux qui vont aller dans les villes, qui vont travailler dans le marketing, la formation, l'innovation, etc., qui vont devenir des salariés plutôt bien payés. La Chine aujourd'hui a des centaines de milliardaires. Et puis de l'autre côté, on va laisser les zones, dans les zones rurales, les grands-parents, etc., là-bas, dans les montagnes, à cultiver du riz en terrasse, avec la bêche, comme on disait. Mm-hmm. Et ensuite, autre problème qu'il ne faut pas oublier, les minorités ethniques, ceux qui ne sont pas chinois, qui sont sur ce pays.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en fait ? On les a marginalisés. Et vous savez qu'aujourd'hui, pour le peuple yougourde, qui est un peuple de religion musulmane, il y aurait 1 million de yougourdes qui seraient en prison, dans des camps de rééducation. Est-ce que vous imaginez ça ?
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous vous rappelez, c'est vieux,
oui.
Ça commence à dater quand ils ont envahi le Tibet. Là aussi, cette civilisation très particulière, eh bien, ils l'ont complètement bouffé, anéanti, et le Tibet est peuplé de Chinois.
Ah oui.
Si vous voulez, il y a eu cette dynamique chinoise et on pensait toujours, jusqu'à pas très longtemps, que c'était très favorable pour l'Occident. C'était très favorable parce que ça devenait des alliés, on le pensait. Et puis ensuite, ils nous fournissaient tellement de matières fabriquées, de produits de consommation, regardez dans le textile, à des prix extrêmement bas, ce qui faisait que le pouvoir d'achat, la population européenne, pensait qu'ils avaient un meilleur pouvoir d'achat. C'est pas parce que leur revenu augmentait. C'est parce que ce qu'ils achetaient était moins cher. Ça venait de Chine, puis un peu plus tard d'autres pays comme l'Inde, etc.
Mm-hmm.
Cette illusion de gain de pouvoir d'achat, parce que les produits achetés voient leur prix baisser, c'est une illusion.
Oui, mais comment comprendre justement que la Chine signe le rejet des assises des politiques menées par l'Occident et ça depuis très très longtemps, 100 ans je crois.
Notre histoire avec la Chine est compliquée. Elle remonte au 19e siècle, elle remonte à l'industrie de la drogue. Il faut savoir que les Britanniques et les Français sont allés avec leurs navires de guerre à l'époque, non pas les envahir, parce qu'ils étaient déjà tellement nombreux et dans un tel grand pays qu'on y est allé et on les a soumis quelque part, les empereurs chinois. Et donc toute cette histoire reste toujours quelque part derrière. Et aujourd'hui, la Chine est dirigée par, il faut employer les mots, un dictateur.
Oui.
Xi Jinping. Et là, les Occidentaux, les gouvernements occidentaux découvrent la vraie Chine. La Chine qu'on avait un peu oubliée. Une Chine d'ambition. Là, ils ont les moyens.
Oui.
Le pays est complètement verrouillé, contrôlé. Et là, on assiste à cette partie de ping-pong, ou de tennis, ou de billard, comme on veut, entre Xi Jinping et Trump.
Mm-hmm.
On y est. Tu veux pas, les produits qui viennent de chez toi, je les taxe. Ah, vous faites ça, mais moi aussi, je vais les taxer. Ça, c'est ce qu'on voit dans les médias.
Oui.
Mais derrière, cette guerre commerciale, elle est beaucoup plus intense que ça, parce qu'elle porte surtout sur les produits, sur les brevets, les licences. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise chinoise qui va fabriquer les Airbus, est-ce que vous pensez qu'elle paye les droits de licence sur le moteur ou certains des appareils, des éléments d'Airbus ? Que nenni, on copie.
Mmh.
Quel est le tribunal international qui va faire quoi que ce soit ?
Oui.
On a le soutien de Xi Jinping, le dictateur, le grand chef, qui veut qu'une chose, le développement de la Chine, mais qu'elle soit insérée au niveau international, qu'elle devienne la première puissance économique du monde. C'est le cas.
Et comment
en
ça
termes
se fait
de chiffres, c'est la première puissance économique mondiale aujourd'hui.
Mmh.
Elle a une difficulté, c'est qu'une partie de ce qu'elle fabrique, elle nous vend, en fait aussi comporte beaucoup d'éléments qui sont importés des pays occidentaux et aussi d'autres pays du tiers-monde. La Chine se comporte comme nous on s'est comporté un peu avec eux, c'est-à-dire qu'elle implante des usines dans des pays où la main-d'œuvre est encore très bon marché. Exemple, le Vietnam. Si vous allez au Vietnam, autour de Hanoï, vous allez trouver, sur le long de certaines routes, des usines qui sont en fait des usines de fabrication chinoise. Et même, ils vont sous-traiter vers la Thaïlande et ils essaient d'ailleurs de conquérir la mer de Chine.
Comment ça se fait donc que les Chinois ne se révoltent pas, ou en tout cas, quand il y a des élections, ne choisissent pas la démocratie plutôt que la dictature?
Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas d'élection qui permette de dire la démocratie oui ou la démocratie non. Là, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'élection. Tout est verrouillé. Ça se passe en interne au niveau du Parti communiste chinois. C'est le parti du dirigeant. Hein. Mm-hmm. Communiste, on se demande pourquoi ils ont gardé le terme quelque part. Il ne faut pas oublier que Xi Jinping, actuellement, c'est le secrétaire du Parti communiste chinois. Hein. C'est le président de l'État. Vous vous rendez compte?
Oui.
Et ensuite, c'est le chef des armées.
Oui.
Donc, on ne voit pas ce qui peut lui arriver.
Mais est-ce que la Chine ne va pas devoir choisir à un moment entre la dictature et la croissance?
Alors, ça se pose peut-être un peu différemment, mais il y a là aussi un problème. Actuellement, l'économie dans le monde, vous le savez, est à flux tendu. Il y a des conflits partout. Mm-hmm. Et on assiste d'ailleurs à ce grand théâtre entre Trump et Xi Jinping. Je taxe tes importations, bah, d'accord, tu le fais, mais moi aussi je vais taxer, etc. On assiste vraiment à ce combat général.
Oui.
Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, et qui est certainement peut-être la chose la plus importante, cette croissance phénoménale de la Chine. Les chiffres sont extraordinaires, invraisemblables même, on se dit. Cette croissance a créé des inégalités sociales en Chine bien supérieures à ce que nous connaissons en Europe. Ils sont partis d'un peuple très pauvre et en 40 ans, il y a des centaines de milliardaires. Il y a toute une population de grands cadres, de grands chefs, etc., essentiellement urbaines, qui gagnent extrêmement bien leur vie, qui ont des emplois, etc. Et il y a après une classe moyenne qui, elle aussi, a tout l'espoir de progresser. Mais cet affrontement économique entraîne quoi pour la Chine? On le constate déjà depuis 2 ans. Bien, il y a moins de commandes, il y a moins d'achats, et puis il y a la concurrence des pays plus pauvres. Il y a eu un accroissement des inégalités, c'est-à-dire toute une partie de la population est devenue très riche au détriment de la grande majorité qui est restée un peu au plancher. Ils ont tous progressé.
Mmh.
On sait que ces inégalités, qu'est-ce que ça va créer? Ben, peut-être demain les gilets jaunes chinois. Allez vous attendre à tout. Et pourquoi pas? Pourquoi les pauvres chinois qui eux ont accès à Internet, qui est complètement verrouillé, qui ont accès à la télévision, qui est complètement verrouillé, qui ont accès à la radio, qui est complètement verrouillé, mais malgré tout, il y a des informations qui passent. Il y a des Chinois qui font leurs études à Toulouse. Savez-vous qu'à Toulouse, il y a plus de 200 étudiants chinois à Toulouse 1? Ils vont repartir avec une autre image de la civilisation, une autre façon de voir.
Oui.
Et il y en a partout. Mmh. Et eux-mêmes, c'est des grands voyageurs. Donc, tout ça va infiltrer la société chinoise. Cet accroissement des inégalités va devenir absolument inacceptable si jamais il y a une grosse crise économique.
Oui.
Et on peut s'attendre un jour à avoir une révolte du peuple chinois.
Est-ce que la Corée et la Chine, ça peut mal tourner?
Ah, la Corée est au service de la Chine, du moins la Corée du Nord.
Oui.
La Corée du Sud, elle cherche à survivre dans ce monde économique et garder cet avantage qu'elle avait au point de vue économique. Là, je ne peux pas, personnellement, mm-hmm. je ne suis pas spécialiste de la situation politique coréenne.
Alors évidemment, il y a toujours quelqu'un qui fait bouillir la marmite. Trump, président des États-Unis, Salvini, vice-président du Conseil des ministres de l'Italie, et Schäuble, ministre de l'Intérieur de la République fédérale allemande. Tout ça, ça fait bouillir des marmites, parce que ce sont des pays assez émergents.
Ce sont des pays plus qu'émergents, c'est des pays européens. Mais c'est des pays qui, dans la situation actuelle, ont mis au pouvoir, les citoyens de ces pays, des gens qui ne sont pas très, très pro-européens, qui ne sont peut-être pas très dans la vision du monde. Moi, je le vois un peu comme ça. Et donc, ça entraîne des tensions à l'intérieur de l'Europe. Alors, ces tensions qui sont à l'intérieur de l'Europe signifient que l'Europe est faible. Et elle est faible par rapport à la Chine dans les négociations.
Oui.
On est toujours en train de subir la loi chinoise sur beaucoup de produits et d'importations de produits. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, on n'arrive plus à faire l'unanimité. Aujourd'hui, l'arrivée de ces personnes au pouvoir, de ces idéologies au pouvoir, ça fragilise complètement l'Europe au niveau international. Mais c'est la démocratie. Donc c'est... Les personnes ont voté, les communautés ont voté, eh bien, on voit l'application et après, comme l'on dit dans nos petits villages, on comptera les pots cassés. Ouais, mm-hmm. On en verra concrètement les conséquences. Pour revenir sur la Chine, dans ce développement très rapide qui a eu lieu, attention, il s'est fait très rapidement, il a créé d'énormes inégalités et puis il y a d'autres éléments. Par exemple, la Chine est le pays le plus pollué au monde. Il n'y a eu aucune mesure, aucune recherche de sécurité par rapport à l'environnement. C'est une pollution colossale, la Chine, qui va affecter, nous le savons, la santé des Chinois, par exemple. Et cette pollution massive, elle aura à un moment donné des effets sur des gens qui veulent aussi vivre là-bas et vivre en bonne santé, le même souci. Donc vous voyez, il y a ce contrôle politique, sociale de la société par une minorité, par un dictateur. Et derrière, il y a les conséquences de ce développement énorme. Il faut toujours dire, ils se sont vraiment développés, vraiment, grâce à nous, puisqu'on était les clients. Mais les conséquences sont là. Ce pays va-t-il rester stable ? Est-ce qu'il ne va pas connaître des révolutions en interne ? C'est ce qu'on souhaite, quelque part.
Oui.
Mais s'ils connaissent des révolutions en interne, quel sera l'effet sur les pays que tu viens de citer en Europe ? Parce que vraiment, le débat en Europe venant de l'Italie ou très simplement de la Hongrie, avec leur chef d'État, par rapport à l'enjeu mondial de la Chine,
oui,
c'est petit quand même. Mm-hmm. Ça a une autre dimension.
Qu'est-ce que Trump vient faire justement comme alliance dans ces pays de l'Orient ?
Trump, moi j'ai du mal à comprendre, je suis un économiste, je crois qu'il faudrait être plutôt psychologue. Mais pour Trump, il a été élu sur un programme que nous connaissons bien en Europe, puisque certains qu'on a cités ont fait les mêmes choses programmatiques, en décidant qu'ils allaient protéger l'emploi dans certaines industries locales, etc. Bon, oui, bien sûr, qu'ils allaient faire ceci et cela... surtout pour les riches, il faut le savoir aussi. Et ils ont été élus contre l'immigration, contre des principes de notre humanité. Bon. Ben, M. Trump a au moins apparemment une qualité, au-delà de son sourire ravageur, il met en application ce qu'il a dit.
Ah mais ça, tous les dictateurs le font finalement.
Non, mais ça, quand on regarde le monde politique et l'histoire, il y a quand même... une différence entre les personnes qui sont élues de manière démocratique ou peu démocratique et qui, une fois élues, ne font pas ce qu'ils ont dit. Et ceux qui, élus, font ce qu'ils ont dit. Au moins, avec Trump, on n'a pas à être surpris, il l'a dit, il l'a annoncé. Mm-hmm. Donc, il avance. Trump, là-dessus, c'est clair, par rapport à la Chine, l'enjeu est pour lui capital, c'est que la Chine est déjà devant les États-Unis, économiquement, en population, en territoire. Pour l'instant, la Chine n'a pas mis des sommes colossales dans l'armement. Mais M. Xi Jinping vient de l'annoncer, le budget de la défense, puisqu'on parle de budget de la défense, on ne va pas parler de budget de l'offensive, n'est-ce pas ? Pas pour l'instant.
Oui.
Eh bien, allait augmenter fortement. C'est-à-dire que la Chine se met à investir dans l'avion de chasse, les chars, dans l'énergie nucléaire, ils le font. Et d'ailleurs, ils le montrent bien. C'est des petits signaux qu'il faut comprendre avec l'espace. Et oui, les Chinois ont envoyé un satellite derrière la face cachée de la Lune.
Oui, mais justement, il est derrière la face cachée.
Ouais. Est-ce que vous trouvez que ça ne vous interroge pas, ça ? Ça n'interpelle pas ? Quel petit signe il nous envoie ?
On est capable
de le faire mieux que vous. Est-ce que
tout
vous le comprenez, le signe ?
Oui,
vous comprenez l'avertissement ? On se croirait à l'école primaire, finalement. On prend quelque part une petite claque qui nous dit, attention, ça va être la raclée.
Oui, mais ils sont sur la face cachée.
Oui, mais pour la Lune.
Oui.
Mais dans l'économie, ils ne sont pas sur la face cachée.
Est-ce qu'il existe une dictature des marchés mondiaux ? Et que peuvent faire les pays contre ça ? Que peut faire l'Europe contre ça ? Parce que ce n'est pas l'intérêt d'avoir une dictature des marchés mondiaux.
Elle bouge, de ce point de vue, elle bouge. Les États-Unis mettent des obstacles, l'Europe met des obstacles, elle bouge. Mais c'est vrai qu'ils sont très dominants sur certaines fabrications. Mais leur domination, c'était surtout sur des produits de consommation. Justement, actuellement, et ça c'est inquiétant, M. Xi Jinping est en train de pousser à l'orientation de l'industrie chinoise vers la recherche, vers la technologie, vers l'innovation. Dans un monde où ils ont déjà des capacités fortes dans les nouvelles technologies, puisqu'ils verrouillent complètement leur population, complètement. La première entreprise mondiale des microprocesseurs, c'est une entreprise chinoise. On en parle presque tous les jours à la radio, parce que ceci, parce que cela, et parce qu'on craignait qu'en implantant leurs fameux petits éléments dans nos téléphones, qu'on achète là-bas, qui sont fabriqués là-bas, eh bien ça permettait à la Chine d'avoir toutes les informations sur tout le monde. Moi, je pense que c'est déjà fait. Mais les Américains l'ont fait aussi. Donc, entre Facebook, etc., ils savent tout sur nous. Donc ça va, il y a une grande banque partout, on est à visage découvert. Et pour dire quelque chose aussi de très violent, je pense, le président Xi Jinping a déclaré « c'est parce que la Chine n'est pas une démocratie qu'elle se développe vite ». Ça vous donne d'entrée la tendance de ce gouvernement et de ce chef d'État. Bon, M. Trump, lui, s'oppose à la Chine, on voit très bien ce que ça fait. Il faut savoir que cela va avoir des conséquences pour la Chine. Si vous diminuez les exportations, vous diminuez la richesse nationale, le chiffre d'affaires. Les milliardaires chinois feront comme les autres milliardaires. Ils vont licencier, ils vont fermer des usines, ils vont vendre ce qu'ils estiment pas rentable, ils vont mettre à la casse. Et en mettant à la casse une partie d'industrie, ça montre bien quand même tout ça que la Chine, comme certains experts disent, c'est un colosse avec des pieds d'argile.
D'accord.
La partie de ce qu'ils vendent, ce n'est pas quelque chose de le top du top. Bien sûr, ils sont dans l'ouverture technologique, mais ils ne sont pas dominants. Vous voyez, c'est fragile. Ils ont un endettement aussi très, très important par rapport à leur population. Eh oui, ça aussi. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais le jour où on s'apercevra qu'ils ne peuvent pas rembourser. Ensuite, ils ont généré tellement d'inégalités. Est-ce qu'un jour, il n'y a pas une menace d'une révolte? Ils ne savent pas ce que c'est un syndicat. Mais peut-être demain, on aura les gilets jaunes paillés de riz sur les carrefours autour de Shanghai. Ils ont les minorités ethniques, qui sont des minorités qui contrôlent, mais qui vont créer quelque chose. Quelque chose. Il n'est pas dit qu'on n'est pas, à un moment donné, dans des parties de la Chine, de la guerre civile. Ils sont là. Énorme, énorme au point de vue économique, extrêmement fragile dans le futur.
Ouais.
Et ne parlons pas de la pollution.
Et l'Afrique ? L'Afrique compte aujourd'hui 1,3 milliard d'habitants. En 2050, ils seront 2,5 milliards.
Absolument. Ce sera l'Afrique qui sera la plus peuplée. Devant la Chine et bien devant la Chine. Si
et alors donc, ça va tourner ? L'Afrique va devenir une nouvelle Chine, entre parenthèses ?
Elle ne peut pas. Si on regarde l'économie africaine, c'est un ensemble de pays très divers, avec eux-mêmes des avantages, des inconvénients, des facilités. Est-ce qu'ils ont de l'eau ? Il y a des pays sans eau ou très peu. Est-ce qu'ils ont des pluies régulières? Est-ce qu'ils ont de bonnes terres? Est-ce qu'ils ont des mines? Est-ce qu'ils ont des minerais? Tous les pays africains ont des différences très fortes de ce que leur a donné la nature dans les découpages de territoires. La deuxième chose pour l'Afrique, c'est une extrême pauvreté et c'est souvent des pouvoirs politiques totalement corrompus. Je ne donnerai pas de nom ici, bien entendu, mais totalement corrompus. Une société totalement corrompue n'est peut-être pas une société qui peut vraiment se développer, surtout en partant de la base.
Oui.
Malgré tout. Et les Chinois n'y sont pas pour rien, parce qu'ils sont en Afrique.
D'accord.
On va en reparler. Malgré tout, il y a des pays qui se développent, qui progressent, parce qu'ils ont des avantages, ils ont les manœuvres pas très chères, ils peuvent exporter des produits, des usines s'implantent un petit peu. Il y a toute une progression. L'exemple le plus typique est le Sénégal. Le Sénégal que l'on connaît bien à Radio Galaxie, tous les ans on en parle. On a même des Sénégalais qui viennent même parler au micro. Et j'espère que d'ailleurs, frère Raphaël pourra venir aussi cette année.
Mais bien ici. Sûr.
C'est cet aspect-là qui est important. Les Chinois sont aussi dans ces pays. Ils arrivent progressivement. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas très forts dans ce domaine. Ils arrivent, ils proposent aux États, on va vous faire des infrastructures. Une autoroute, une voie rapide, un aéroport, une extension d'aéroport, un réseau électrique digne de ce nom. Et en contrepartie, on vous prête l'argent, mais il va falloir nous donner un coup de main à l'ONU, tu vois, etc., etc. Je fais un peu grossier peut-être, mais je pense que c'est ça. Et là aussi, les Chinois commettent actuellement une grosse erreur. Lorsqu'ils ont un chantier, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils amènent la main-d'œuvre chinoise. Ils ont confiance qu'en eux-mêmes. Et la main-d'œuvre chinoise, quand elle vient, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, il y a les parents, l'oncle, le frère, les grands-oncles, le grand-frère, qui viennent derrière pour monter des business, des commerces. Si j'ai des travailleurs chinois, ils vont aller au restaurant chinois. Et vous allez dans ces pays, vous allez d'ailleurs à Dakar, vous verrez, il y a des rues maintenant, des rues chinoises, où il n'y a que des commerces, des bars, des restaurants, etc. Et ça, ça ne passe pas très bien auprès des populations locales. Il faut le savoir aussi. Voilà. Mmh. Ils ont une technique d'implantation traditionnelle, mais où ils contrôlent l'État. Je te prête l'argent, donc je te tiens. Et après, il y a aussi les implantations de ce point de vue. Donc le devenir pour la Chine, eh bien, ça dépendra beaucoup de nos propres réactions à nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer à acheter chinois tous ces petits produits? Pourquoi on ne les fabrique pas en Europe? Mais en Europe, au sens large, on peut les fabriquer dans le Maghreb ou en Afrique noire. Ensuite, est-ce qu'on ne va pas aussi essayer de faire quelque chose par rapport à l'écologie, à la survie de notre planète? Et là-dessus, on sait qu'il y a des tendances de fond, même si certains ne le voient pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va trouver en face de nous? Le premier pays pollueur au monde, ils sont passés devant les États-Unis quand même, il faut le faire, ce sont les Chines. C'est la Chine qui est le plus pollueur actuellement dans le monde. Alors qu'on sait bien que notre planète, ça ne va pas bien du tout. Hein, on l'a bien vu cet hiver, il y a des anomalies, il y en a vu en boîte là. Et puis, au dernier point, la Chine est certainement très très intéressante par ses projets. On n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais ils ont aussi des visions qui sont hyper sympathiques, dynamiques et intéressantes. La route de la soie. Leur projet actuellement, 1000 milliards de dollars ils veulent mettre dedans. C'est de faire une autoroute, une voie ferrée, depuis la Chine jusqu'à Lyon. Et à ce moment-là, jusqu'en France, jusqu'au Portugal. Et à ce moment-là, ils nous enverront leurs marchandises, c'est ce qu'ils pensent, par le train. Et non pas par bateau. Moi, je pense qu'il y aura plus de marchandises envoyées, à mon avis. Parce que les Chinois seront devenus un pays développé, avec une grosse classe moyenne, et peut-être démocratique. Je le souhaite à tout le monde. Vive la Chine démocratique, et on nous verrons bien ce que ça donne.